Aujourd'hui à l'émission Parole à propos, le créationnisme. Bonjour, bienvenue à l'émission Parole à propos. Mon nom est Pascal Denoux. Et aujourd'hui, je reçois un nouvel invité qui, j'espère, sera un invité récurrent qui reviendra dans d'éventuelles émissions. Alors, il se nomme Julien et il est le vice-président de l'Association des sciences créationnistes du Québec. Bonjour, Julien.
Bonjour, Pascal.
Ça va bien?
Ça va très bien, et toi?
Oui, ça va bien, merci. Merci d'être présent. Alors, vous avez deviné de quoi on va parler. On va discuter de la création. Cette association, Julien, tu me corriges si je me trompe, mais s'intéresse principalement au débat de création-évolution.
Oui, surtout dans la francophonie.
Voilà, ça se passe au Québec. Et voilà, il y a plusieurs articles. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle a été ta contribution, comment tu t'es intéressé au débat depuis les quelques années là? Voilà, qu'est-ce que tu as fait depuis que tu participes avec l'Association des sciences créationnistes au Québec?
Ben, en fait, mon intérêt pour le créationnisme remonte à il y a une quinzaine d'années. Alors que je faisais mes études en sciences et que j'étais aussi quelqu'un qui croyait en Dieu. Et j'ai tout simplement assisté à une conférence créationniste qui avait été donnée par Laurence Tisdall à l'époque, qui est toujours le président de l'Association créationniste du Québec. Et j'ai tout simplement été charmé par la logique implacable des arguments scientifiques qui venaient soutenir la création. C'est la première fois que j'en entendais parler parce qu'évidemment, à l'école, on nous présente un seul côté à la médaille. Et à cette époque-là, je faisais mes études en sciences pures. Puis, donc, on nous présentait l'évolution dans nos cours. J'avais déjà quelques doutes qui étaient là. Mais quand j'ai pu voir une conférence créationniste, j'ai vu qu'il y avait un autre côté à la médaille et qui était très, très solidement appuyé par des évidences scientifiques. Puis, en même temps, ben on nous présentait lors de cette conférence-là toute la faiblesse de l'argumentation évolutionniste.
Et donc, depuis une douzaine d'années, tu participes avec l'ASCQ.
Oui.
À quel niveau? Qu'est-ce que vous faites exactement?
En fait, on a donc notre site web, www.creationisme.ca. Là, on va publier donc des articles. Souvent, c'est des articles qui ont été publiés par des gens qui ont des doctorats en biologie, souvent dans le monde anglophone, parce que dans le monde anglophone, le créationnisme est supporté par plusieurs associations scientifiques. Alors, souvent, on va prendre de ce matériel-là, on va le traduire. On écrit aussi nos propres articles en fonction des nouveautés dans l'actualité scientifique qui viennent appuyer le créationnisme. Et c'est en français. Pourquoi en français? Mais parce qu'il y a très peu de matériel en français. Dans le monde anglophone, il y a énormément d'associations. Mais en français, il y a vraiment un grand besoin, surtout avec l'Internet. Maintenant, on peut rejoindre les gens de la France ou de l'Afrique qui parlent en français. Et dans un autre ordre d'idée, on fait aussi des conférences qu'on présente. Ça, c'est sur appel. Les gens nous contactent, on va présenter des conférences sur le domaine. On a nos DVD, qui sont des conférences avec des PowerPoints qui apparaissent à l'écran. Fait que c'est plus facile, des fois, avec un DVD, c'est plus léger comme contenu. Puis, on a fait aussi souvent, au travers des années, des débats dans les cégeps, les universités. On va débattre contre Laurence Tisdall, qui a des études en biologie, par exemple, va se présenter contre un autre biologiste, puis un débat qui prend place avec un modérateur. Ça, c'est des choses qu'on a faites au travers le temps. Mon implication personnelle, c'est que ben, j'ai écrit des articles et j'ai participé quelquefois à des conférences. J'ai fait un débat aussi à TQS avec Dutrisac qui est disponible sur Internet.
Oui, c'est là que je t'avais vu. Hein. Tu faisais pas un débat avec Dutrisac, mais tu étais invité.
Oui, c'est ça. Donc, j'étais l'invité de Dutrisac sur l'heure du dîner. C'était en direct. Ça dure 12 minutes. C'était avec un professeur de biologie Université Laval que le débat s'est fait.
OK. Ben oui, j'avais perçu ça sur le site de l'ASCQ et puis c'est là où j'avais eu d'ailleurs l'idée de t'inviter comme chroniqueur, si on veut, à Foi FM. Et je crois aussi que tu as un blog personnel où tu présentes tes propres recherches puis des articles.
C'est ça. En fait, mon blog, c'est créationactualité.com, dans un mot. Puis donc, depuis plusieurs années, après avoir débattu sur des forums de discussion avec des ardents croyants de l'évolution, j'ai fait beaucoup de recherches sur la résistance aux antibiotiques, les fossiles, etc. Fait que donc, j'apporte des réponses assez courtes à toutes ces questions-là. Je mets beaucoup d'images aussi, le plus possible, pour aider le lecteur. J'essaie de faire ça très court, très vulgarisé aussi. Fait que c'est un outil qui est intéressant pour les gens qui s'intéressent à la question.
Ok. Toi, ton expertise là-dedans, c'est surtout par intérêt personnel. T'as pas de
C'est ça.
formation comme biologiste. T'as-tu une
Oui.
formation particulière qui peut t'aider dans ce domaine-là?
Pas vraiment. Je me présente pas vraiment comme une autorité en sciences. C'est pour ça que souvent je vais mettre des citations, des articles scientifiques. Je vais mettre des images. Je vais mettre beaucoup, beaucoup de support factuel parce que je me présente pas là comme quelqu'un qui a fait des recherches en biologie. Moi, j'ai fait mes études en sciences pures, puis après j'ai été dans les mathématiques actuarielles. Donc, mon expertise, c'est plus dans la modélisation mathématique. Fait que j'ai une certaine expertise dans le domaine de la modélisation, les hypothèses, les résultats, les données, la rigueur scientifique, mais pas en ce qui a trait nécessairement directement à la biologie. C'est vraiment mes études personnelles, mes 12 à 15 années là, de lecture de revues scientifiques qui m'ont amené à pouvoir composer ces articles-là, puis ces conférences-là aussi que j'ai fait.
Très bien. Julien, tu as dit tantôt que le créationnisme, lorsque tu as entendu la première fois une argumentation, tu as été persuadé par la cohérence, la solidité des arguments. Et l'impression que j'ai, moi, quand on entend parler du créationnisme dans les médias ou sur des forums, c'est que c'est une doctrine religieuse uniquement, que les gens croient, mais pour croire, ils doivent faire abstraction des faits scientifiques. Lorsque je me suis intéressé un petit peu à ce qu'on appelle le dessin intelligent et tout le débat, je me souviens que c'était présenté sur certains sites comme une tentative d'adapter des faits scientifiques ou des données scientifiques à des croyances et que c'était une approche plutôt fidéiste, c'est-à-dire qui relève de la foi plutôt que de la science. Est-ce que c'est exact?
Ben, il faut se rappeler qu'à l'origine, le créationnisme, la théorie de la création était soutenue par la communauté scientifique bien avant la religion. En fait, tous les fondateurs des sciences modernes étaient des gens qui croyaient que Dieu avait créé. On peut parler de Newton, par exemple, qui a écrit beaucoup plus sur la théologie qu'il a écrit sur la science. Ça peut paraître étrange, mais c'est ça. Tous les fondateurs des sciences modernes qui ont vécu dans les années 1600 à 1800 étaient des gens qui croyaient fondamentalement en regardant la nature, qu'il y avait un créateur, parce qu'il y avait beaucoup trop de cohérence dans la nature. Par contre, à un certain moment donné, le créationnisme avait en lui-même une faiblesse, c'est qu'on croyait, ces scientifiques-là croyaient, et de concert aussi avec l'Église à l'époque, que les espèces étaient fixes. Quand Dieu les avait créées, elles n'avaient jamais, jamais bougé par après. Alors, ce que Darwin est venu montrer, c'est que c'était faux. Il a comme fait une entaille dans la théorie de la création en démontrant que sur les îles des Galapagos, il avait vu 13 espèces de pinsons qui venaient peut-être d'une espèce originale et il y avait la forme du bec qui était légèrement différente d'une espèce à l'autre. Alors ça a été une entaille dans la théorie créationniste. Et ça a donné place à une espèce d'extrapolation où non seulement les espèces sont un peu élastiques, peuvent subir un peu des micro-variations, mais là, on en est venu à postuler que le reptile pouvait se transformer en oiseau. Donc là, il y aurait eu des apparitions de caractères morphologiques. Alors, c'est à ce moment-là que, finalement, la théorie créationniste a été mise à mal et les scientifiques, tranquillement, pas vite, n'étaient pas capables de débattre et de montrer que le fixisme était vrai, mais le fixisme était tellement lié fortement au créationnisme que le créationnisme, finalement, dans le monde de la science, a été peu à peu abandonné, au lieu de juste le modifier un peu, puis de se rendre compte qu'il pouvait y avoir une micro-élasticité dans les caractères morphologiques. Par exemple, on ne croit pas que l'âne, le zèbre et le cheval ont tous été créés les trois par Dieu. Ils ont probablement, ils viennent d'un ancêtre primitif qui était au début de la création un équidé, et il y a eu plusieurs sous-espèces, si on veut, qui ont été engendrées avec le temps, comme nous qui est capable de croiser deux espèces différentes, puis en arriver à un chien qui serait plus résistant au froid ou moins résistant au froid, mais on fait pas apparaître les pattes, les yeux, le cerveau, les plumes, les écailles de cette façon-là. On joue juste sur des différences de forme et de grandeur. Alors ça a mis à mal la théorie de la création, et l'évolutionnisme c'est à ce moment-là que l'évolutionnisme a pris la place, et on a relégué le créationnisme à la religion. Donc, historiquement, là, ça c'est le tableau historique qu'on peut dresser sur comment les choses se sont faites. Donc, l'approche créationniste n'est rien contre la science, parce que tous les scientifiques qui ont fondé les sciences modernes étaient créationnistes et ne voyaient pas de contradiction avec leurs recherches. Donc, c'est faux de dire que c'est une approche qui est religieuse. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, on l'a évacué de la science. On a acheté le bébé avec l'eau du bain parce qu'il y avait une faiblesse dans la théorie, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on réalise que l'évolution, elle a 1000 faiblesses, 1000 trous qu'on réussit pas à combler. Donc, on s'est ramassé dans une situation qui est bien pire qu'avant.
Oui, et ça sera probablement le sujet de notre prochaine chronique, de montrer que les faiblesses de l'évolutionnisme, mais... Donc maintenant, tu affirmes qu'il y a un fondement scientifique solide à la doctrine de la création. Est-ce que tu aurais des exemples? Moi, une des choses qui m'avait frappé quand je me suis intéressé à la question, là, j'ai pas approfondi autant que toi, mais c'est les tenants de la théorie du dessein intelligent ou de la création qui était d'arrière-plan scientifique. qui ne sont pas arrivés à cette conclusion-là pour des raisons de foi ou de religion, mais pour des raisons de science, d'observation scientifique, disaient qu'autrefois, on tenait compte de deux facteurs dans les sciences comme la biologie ou l'astrophysique, des choses comme ça. On tenait compte de la matière et de l'énergie. Mais ils disent maintenant, on doit prendre en considération un troisième facteur qui est l'information. Qui a des données, qui a une intelligence, qui a des lois, qui a de l'information qui s'observe, par exemple dans l'ADN, et qui peut pas s'expliquer autrement que par une source d'intelligence.
Ouais.
Est-ce que ce sont de genre d'évidence comme ça qui nous amène au créationnisme, à un fondement scientifique pour le créationnisme?
Oui. Ben en fait, si on retourne à l'époque de Darwin, il faut savoir qu'à cette époque-là, les microscopes de l'époque, les instruments nous permettaient, ils permettaient aux scientifiques de voir pas plus quand ils regardaient la cellule qu'une petite vacuole avec des biomolécules à l'intérieur. Effectivement, à l'époque, on connaissait rien de l'information génétique. On savait pas que ce qui permettait une cellule de fonctionner puis de se répliquer. C'était une information qui est de loin beaucoup plus qui est aussi complexe que celle qui se retrouve dans les ordinateurs modernes. Alors effectivement,
ce qui n'était pas suspecté à l'époque de Darwin, on avait une conception simpliste de la cellule.
C'est ça. Il faut se rappeler que c'est juste en 1950 que la structure de l'ADN par Crick et Watson a été décrite. Donc, c'est pas très loin dans le temps qu'on connaît comment l'ADN est structuré. Un peu plus, si on recule un peu avant Crick et Watson, on était quand même conscient qu'il y avait de l'information génétique. On n'en connaissait pas la structure encore, mais si on retourne à l'époque de Darwin, on croyait que la cellule n'était qu'une vacuole avec des protéines à l'intérieur, mais on n'en savait rien. On connaissait pas les lois de l'hérédité et de la transmission de l'information génétique. Alors, Darwin postulait sur quelque chose qu'il ne connaissait absolument pas.
Écoute, c'est vraiment très, très intéressant. On arrive déjà vers la fin de la chronique. Et je suis persuadé que ceux qui nous écoutent, certains qui sont d'accord avec le créationnisme, d'autres qui ne sont pas du tout d'accord, ont envie de débattre, et puis on va certainement revenir avec, on va entrer plus en détail. En fait, c'est ce qu'on propose d'explorer tout ce débat et de le faire honnêtement, sans se mettre la tête dans le sable et de confronter pleinement toute cette argumentation. Alors, Julien, je te remercie de vouloir participer et puis on a bien hâte de te retrouver pour continuer d'en apprendre et d'affermir notre compréhension dans ce débat.
Je te remercie.
À bientôt.
Merci.